Éphésiens, chapitre 2, et le verset 1er nous dit ceci. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la manière de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, et nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors ce texte d'introduction, il y a un moment donné dans le propos de Paul, il y a une bascule, il y a un petit mot qui va tout faire basculer. Hein, c'est le premier mot du verset 4, c'est le mot « mais ». M-A-I-S. Est-ce que vous vous souvenez de vos conjonctions de coordination quand vous avez appris le français? Vous en souvenez? Ah, mais où est donc Ornicard? Ah, celui-ci, hein, il nous a... Jusqu'à maintenant, vous voyez, il nous a perturbés. Mais où est donc Ornicard? Ah oui, ce fameux « mais où est donc Ornicard ?» En général, hein, ces conjonctions de coordination, eh bien, elles relient et puis surtout, elles introduisent souvent une nouvelle proposition. Voilà, c'est d'une manière générale. Hein, il y a quelque chose qui se passe après ces conjonctions de coordination. Et là, il y a bien quelque chose qui se passe ici. Avec ce « mais », hein, qui introduit bien pour nous quelque chose qui est glorieux, dont on goûte, on commence à goûter. Hein, ce matin, c'est la richesse de son amour. Il nous a aimés, nous étions morts, mais il nous a sauvés, etc. Et c'est quelque chose, bien sûr, cette petite conjonction de coordination qui bouleverse et qui a bouleversé nos vies. Et j'aimerais ce matin nous parler de quelques « mais ». Alors, pas des « mais », M-E-T-S, hein, ceux que vous allez manger tout à l'heure, mais des « mais », M-A-I-S, qui peuvent, là aussi, changer nos vies, qui peuvent complètement bouleverser nos vies. Alors, on va voir quelques « mais » charnels, on va voir quelques « mais » qui sont spirituels, et puis on verra aussi quelques « mais » que Jésus nous propose ce matin pour que nous puissions, nous aussi, bien être bouleversés tout à nouveau par sa bonté et par sa grâce. Alors, quelques mets charnels. On va en voir deux ce matin et vous allez comprendre de quoi il s'agit avec un premier texte. On commence avec le cousin de Jésus. Vous vous rappelez du cousin de Jésus? Il s'appelle Jean-Baptiste. Et dans Matthieu 3, 13, voilà ce qu'il est écrit quand il va y avoir cette rencontre, en tout cas que Matthieu et d'autres évangélistes décrivent. Jean-Baptiste, vous savez, bien, on l'appelle aussi Jean le baptiseur, il est celui qui baptisait dans le Jourdain. Et voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 3, 13. Il est dit ceci, « Il monta ensuite sur la montagne, Matthieu 3, 13. » Je suis dans Marc 3, 13, là, ça ne va pas le faire. Matthieu 3, 13, voilà ce qu'il est dit. Matthieu 3, 13. « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais, Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Mais Jean lui résistait. Mais Jean s'opposait à la parole, à la demande de Jésus. Hein, il ne veut pas le baptiser. Jésus vient vers son cousin, lui demande de le baptiser là dans le Jourdain, mais il ne veut pas. Il résiste et il s'oppose. C'est le « mais » de l'opposition, c'est le « mais » de la résistance. Pour quelle raison, en fait? Bien, Jean-Baptiste le dit un peu plus haut. D'abord, il reconnaît que Jésus est le plus puissant que lui. Et puis, surtout, qu'il n'est pas digne de porter même ses sandales. Il n'est même pas digne de délier, voire de porter hein, les sandales de Jésus. Et on pourrait dire ce matin qu'en cela, Jean-Baptiste a raison. Ce sont des arguments qu'on pourrait bien sûr entendre. humainement, ces arguments sont justes, mais on pourrait dire que divinement, spirituellement, ils deviennent injustes parce qu'ils nourrissent sa pensée pour refuser d'accomplir tout simplement ce que Jésus lui demande. Et c'est là où ce mais est un mais qui est charnel, qui s'oppose et qui résiste à une demande de Jésus, parce que spirituellement, bien, il va bloquer. Ça va bloquer la parole de Jésus. En effet, si on réfléchit quand même quelques instants, on pourrait d'abord se dire que Jésus ne se trompe jamais. Quand il demande à quelqu'un quelque chose, Jésus ne se trompe pas d'interlocuteur. Vous vous souvenez qu'un jour, il va demander à ses disciples d'aller chercher un ânon. Et Jésus est très précis. Il va lui dire, écoutez, vous allez dans telle rue, il y aura telle maison, tel homme, vous lui demanderez, etc. Et puis voilà. Et Jésus ne va pas se tromper dans sa demande. On peut se rappeler aussi que Jésus, ce matin, connaît mieux Jean-Baptiste que lui-même. Il dira de Jean-Baptiste, il n'est pas né de femme, quelqu'un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Il ajoutera, et pourtant, il est le plus petit d'entre nous. Mais Jésus connaît bien Jean-Baptiste, et s'il lui demande, eh bien c'est parce que, là aussi, il connaissait bien Jean-Baptiste. Et puis surtout, on peut quand même se rappeler ce matin que Jésus, bien sûr, est sauveur, mais il est Seigneur. Et qu'à ce titre, lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il nous demande, eh bien, nous sommes en principe appelés à lui obéir. Jésus connaît Jean-Baptiste et il lui demandait ainsi d'obéir. Alors, quel est ce mécanisme, ce protocole curieux que Jean-Baptiste vit? Mais il faut être honnête aussi ce matin que nous vivons aussi lorsque parfois Jésus nous interpelle, lorsqu'il nous demande pourquoi nous aussi nous sommes capables parfois d'opposer des « mais » où on va résister, où on va dire « Seigneur, eh bien non ». Parce qu'il y a un « mais » qui est derrière. Eh bien, ce mécanisme, on le reporte, on le retrouve dans Galates, au chapitre 5 et le verset 16. Vous connaissez certainement également ce passage de l'Écriture qui nous décrypte un petit peu ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés à une demande, à une parole de Jésus. Galates 5, 16. Voici ce que je dis. « Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, en sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Il y a deux mots-clés dans ce passage, ce sont les mots « contraire » et « opposé ». Contraire et opposé. Notre nature charnelle, appelez ça comme vous voudrez, notre vieille femme, notre vieil homme, notre nature humaine, enfin tout ce que vous voulez, va systématiquement s'opposer, résister à toute parole de Dieu, à toute demande de Jésus, à l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va être toujours un « non », comme Jean-Baptiste qui va résister à cette demande de Jésus de le baptiser. Et c'est systématique, c'est systématique. Et vous savez, parfois, il y a des arguments qui sont même très, très subtils, très spirituels. Vous vous rappelez, lorsque cette femme va venir briser un vase d'albâtre au pied de Jésus, un parfum très, très cher. Et là, les disciples, ils ont une remarque extraordinaire quand même. On aurait pu vendre ce parfum très cher et le donner ensuite aux pauvres. Ah, quelle belle... C'est très spirituel, ça, quand même. Et c'est vrai, on n'avait pas pensé. Donner tout ça aux pauvres. Et Jésus va dire, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait ce qu'elle a pu. On connaît. Et là, il y avait un mais qui s'opposait à l'œuvre de Jésus. Pierre, on en parle il y a quelques instants, quelques temps de Pierre, mais lorsqu'il va dire à Jésus, par sentiment bien sûr, lorsqu'il parle de la croix, « Mais Seigneur, ça t'arrivera jamais !» Comme on a vu mardi des disciples qui disaient, là aussi parce qu'ils avaient entendu que l'Esprit disait à Paul qu'en allant à Rome, il va y avoir des souffrances, alors les disciples s'opposaient à eux sentimentalement, « Mais n'y va pas Paul, tu vas souffrir !» Et là encore, eh bien, il y avait une résistance charnelle, les sentiments qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu. Il peut y avoir parfois dans nos vies bien ce genre de réaction charnelle, sentimentale, et sans qu'on le sache, même parfois sous une apparence de raison très spirituelle, eh bien, on peut s'opposer, on peut même résister à la parole de Jésus. Il y a un autre exemple, on va lire les deux textes en même temps, c'est un petit peu la même pensée. Luc 10, 29. Premier texte, Luc 10, 29. Alors c'est un docteur de la loi hein, qui demande à Jésus, qui l'interpelle, le plus grand des commandements. Et puis au verset 29, il est dit celui, mais lui voulant se justifier. Mais lui voulant se justifier. Luc 14, 18, une parabole que Jésus nous laisse là aussi pour accepter sa parole. Et puis au verset 18, alors il donne cette parabole de quelqu'un hein, qui invite pour un festin, dans une parabole c'est un mariage, il invite tout le monde. Et puis donc au verset par exemple 18, Luc 14, 18, il est dit ceci, « Mais tous sans exception se mirent à s'excuser. » Mais tous se mirent à s'excuser. Le mais de la justification, le mais des excuses. Et celui-là, on le connaît bien, parce qu'on le pratique assez régulièrement. Hein. C'est pas moi, mais c'est l'autre. Bon, ça remonte assez loin, ça. Hein. C'est le syndrome adamique. C'est pas moi, c'est ma femme. Ma femme me fait un... Mais les femmes disent, c'est pas moi, c'est le serpent. Voilà. Hein. Bon, c'est pas moi, c'est l'autre, on connaît. Il y a aussi les circonstances atténuantes. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas si grave que ça. En tout cas, les autres le font aussi. Donc, c'est le mais des excuses, on se justifie. Il y a aussi le mais, vous connaissez, oui, c'est vrai, mais j'y suis pour rien. Je me suis fait piéger. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai rien demandé. Je faisais tout à l'heure, Frédéric faisait allusion à Moïse. Vous vous souvenez de ce moment où Moïse est sur la montagne et Aaron se retrouve avec le peuple. Et le peuple lui demande, fais-nous des dieux. Et alors, Aaron donne l'explication, écoute, moi, je n'ai pas fait grand-chose, ce n'est pas de ma faute. J'ai demandé de l'ordre, on a mis de l'ordre dans un moule, et puis il en est sorti ça, le veau d'or, comme si Aaron n'était pour rien. Voilà, c'est sorti tout seul. Ou alors, oui, Seigneur, mais je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment. J'ai pas les capacités. On peut penser à Moïse. Je suis chargé, je suis embarrassé. Gédéon et d'autres. Oui, mais. Hein, ce sont les excuses et on se justifie. Et là encore, même si nos excuses, on a toujours de bonnes excuses. Même si nos justifications tiennent toujours la route, on a toujours de bonnes raisons. Même si elles sont crédibles, elles masquent néanmoins, malgré tout, bien notre désobéissance. À accomplir eh bien, ce que Dieu me demande, ce que Jésus me demande. C'est une réaction encore charnelle où la chair s'oppose avec toutes ces belles excuses, avec toutes ces belles justifications. Alors s'il y a des mais qui sont charnels et qui s'opposent, béni soit Dieu, elles sont intéressantes aussi pour nous ce matin, eh bien, ces réactions qui sont spirituelles. Il y a des mais qui sont spirituels, qui sont inspirés. On va en découvrir encore quelques-uns ce matin. Le premier de ce mais, c'est Matthieu 8, 8. Connaissez ce centenier hein, qui va répondre, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais... » Ça, c'est un mais qui est spirituel. « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Comme Jean-Baptiste, on pourrait dire que ce centenier se sent et se sait indigne que Jésus entre dans sa maison, pour toutes leurs raisons. Et on pourrait dire, oui, il a raison, il est romain, c'est un occupant, même s'il aime et a construit la synagogue, etc., il pense qu'en entrant dans sa maison, Jésus va se souiller. Il a quand même une haute opinion de Jésus. Mais ici, sa foi dans l'autorité de la parole de Jésus, eh bien, va lui permettre de dépasser cette réalité. Sa foi va lui permettre de dépasser et ici d'ajouter un « mais ». Je ne suis pas digne, mais, sur ta parole, eh bien, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. J'aimerais nous rappeler ce matin que notre indignité, son indignité, n'empêchera jamais Jésus d'intervenir en sa faveur, en notre faveur. Il y a un chant qu'on chante, hein, « Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous ». Et il est vrai que, intellectuellement, humainement, nous sommes indignes. Qui est aimable par sa nature auprès de Jésus ? Personne. Nous sommes indignes. C'est une réalité, mais. J'aimerais que ce matin, nous puissions saisir ce « mais » de la foi. Ce « mais » qui nous permet de changer notre culpabilité, de changer peut-être notre mentalité, notre réaction. Oui, je suis indigne, mais, dis un mot. Oui, Seigneur, je confesse que, mais, je veux me confier dans ta parole. Et on se souvient, on verra tout à l'heure l'exemple de Pierre, mais lorsque Jésus va lui demander de jeter le filet, et là, Pierre se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit, Pierre ? Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi, je suis indigne, parce que, en même temps, Pierre constate là que Jésus est en dehors de ses pensées. Tout de suite, il réalise qu'il est le Fils de Dieu. Il y a la sainteté, et puis en même temps, son péché, etc. Et ça se bouscule au portillon chez Pierre. Et peut-être que ce matin, ça se bouscule aussi. On n'ose pas trop s'approcher de ce Dieu qui est trois fois saint, dont nous craignons certainement son nom, parce que à cause de notre nature. Mais nous pouvons faire, mais sans jeu de mots, la même prière que ce centenier. Seigneur, je suis indigne, mais sur ta parole, avec ta parole, dis un mot, et mon cœur est guéri, et mon cœur est restauré, dis un mot, et je progresse dans ce domaine, dis un mot, Seigneur. Et je confesse ta parole ce matin dans la foi. Indigne, mais exaucé. C'est ce que nous voulons vivre également ce matin. Oui, nous sommes indignes humainement, mais, eh bien Jésus entend, Jésus exauce. Ce matin, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Indigne, peut-être, mais sûrement exaucé. Un autre mais, dans Matthieu 15, 21, 27. Et on se rend compte que là encore, il y a un rapport avec la foi qui est extraordinaire. C'est ce texte de cette femme syrophénicienne dont la fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus prend un petit peu de distance avec ses disciples, il part, et puis on connaît un petit peu le dialogue, donc, où cette femme crie, interpelle Jésus, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Le silence et la parole de Jésus semblent confirmer que eh bien, cette femme n'a rien à voir avec les promesses. Mais, le voilà le mais de la foi. Elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Waouh, quand même, Jésus, il semble qu'il y va fort quand même là. « Oui, dit Seigneur, dit-elle, mais, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Amen. Étrangère, mais accueillie par Jésus. Cette femme, c'est une syrophénicienne, c'est une non-juive. Et donc, historiquement, spirituellement, elle n'entre pas dans les promesses de Dieu. Elle n'entre pas dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus semble lui dire cela par son silence, par la manière dont il lui parle. Mais, cette femme dans la foi, comme ce centenier romain, eh bien, va dépasser, j'allais dire, le stade de cette humiliation apparente. Je ne sais pas si Jésus vous aurait parlé comme ça, si on serait resté, il est macho, il est méprisant, il n'a même pas entendu, etc. Et cette femme va dépasser ce qui semble être une humiliation, mais qui n'en est pas une, parce que Jésus va relever la foi de cette femme, va la faire monter à la surface et devant tous ses disciples dira, bien là encore, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Jésus ne méprise jamais personne. C'est une étrangère, mais qui va être accueillie. Et les sœurs, tout à l'heure, témoignaient que parfois, elles ont du mal avec leur identité par rapport à Dieu parce que, oui, Jésus était un homme. Et on a du mal peut-être, nous, à le comprendre, à le saisir, nous, en tant qu'homme. On peut sembler parfois être étranger aux promesses de Jésus, étranger à son amour, étranger à sa bienveillance, étranger à sa grâce. Mais ce matin, il y a ce « mais » qui change nos vies, étrangère peut-être, mais malgré tout accueillie. accueilli. La Bible nous parle de ces manières spirituelles. Il nous dit que nous aussi, autrefois, on était des païens dans la chair, appelés incirconcis. Mais souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Ce matin, en Jésus, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Chacun pour nous-mêmes. Et nous pouvons dire comme cette femme, eh bien oui, oui Seigneur, confessez notre foi, ta parole, elle est aussi pour moi. Et ce matin, dans la grâce de Dieu, ce ne sont pas des miettes que Jésus nous propose, mais une pleine nourriture de sa bénédiction et de sa grâce. Nous avons été étrangers, mais nous sommes accueillis, qui que nous soyons. Hein, je ne connais pas cette réalité, mais je sais que parfois, quand on change de nation, quand on change de culture, quand on se retrouve au fin fond du Sungo ou ailleurs, parfois, bien, les autres habitants nous font bien sentir qu'on est des étrangers, qu'on est différents, plutôt que nous, que eux sont différents de nous, etc. Et c'est quelque chose qui peut blesser, qui peut humilier. Mais Jésus est celui qui accueille l'étranger, l'étrangère. Amen. Et qui lui fait part aux mêmes promesses, et ces étrangers deviennent des enfants. Et puis, la dernière pensée, c'est celle de Pierre, on en parlait tout à l'heure, Luc 5, 4, hein, ce moment où, après une nuit de pêche infructueuse, eh bien, il va se retrouver là encore, et le récit, on peut le lire parce qu'il est assez court, mais il est tellement parlant. Luc 5, verset 4, nous dit ceci, « Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » Amen. En échec, notre brave Pierre, il est en échec ici. Qui n'a jamais connu l'échec ce matin? Qui ne connaît pas l'échec? Et peut-être que vous êtes entré dans ce lieu et vous vivez en ce moment un échec. Et bien sûr, cet échec est difficile. Pourtant, ce n'est pas la faute d'avoir essayé. Pierre, ici, n'est pas un fainéant. C'est quelqu'un qui est un travailleur, il est courageux, c'est un pêcheur expérimenté également. Il connaît les endroits, il connaît les lieux, il connaît les techniques. Il n'a pas abandonné au premier coup de filet infructueux. Pendant toute la nuit, il a rejeté les filets, ils ont essayé, ils ont travaillé, et pourtant, bien, les efforts ne sont pas récompensés. Et que va faire Pierre? Eh bien, ici, il nous est dit que malgré cet échec, il va continuer à préparer ses filets, il les répare, il les lave, parce que, dans l'optique, eh bien, que la prochaine nuit soit fructueuse. Il répare, il attend le soir, bien entendu. Et c'est là que Jésus va venir le déranger. Je ne sais pas si vous aimez être dérangé en plein travail, hein, mais moi, je n'aime pas trop, surtout quand on est quelque chose, ça ne se passe pas comme ça voudrait, et ce n'est pas le moment de nous déranger. Et là, Jésus va le déranger. Et Pierre aurait pu dire, écoute, Seigneur, tu ne vois pas, je suis en train de réparer, je suis fatigué, je suis frustré, je n'ai pas dormi de la nuit, ce n'est pas le moment. Va voir quelqu'un d'autre, Jean ou quelqu'un qui a une barque, etc. Mais moi, je répare mes filets, je les lave et puis je prépare ma prochaine pêche. Mais une première fois, Pierre va se laisser déranger. Il va obéir. Et puis ensuite, moi, je me souviens de la question, qu'est-ce que va faire Pierre pendant que Jésus se sert de sa barque comme estrade pour prêcher? Je pense, alors, moi j'ai plusieurs solutions. Soit il se fait une bonne sieste, il dit « bon, je vais me reposer ». Soit il peut écouter Jésus. Soit il peut continuer à réparer ses filets, les laver, je ne sais pas. Moi. Bon, si vous avez une autre idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est dans la barque avec Jésus et il est un petit peu coincé. Il est un petit peu coincé, Pierre. Mais pour la deuxième fois, il va obéir. Une fois que Jésus s'est servi de la barque comme estrade, il va dire « écoute, eh bien, maintenant tu vas jeter des filets ». Et là encore, Pierre aurait pu dire, écoute Seigneur, ce n'est pas le moment, tu as parlé à une foule là, il y a encore une foule qui est là, il y a du bruit, etc. Même si tu me dis d'avancer en plein eau, ce n'est pas le moment, c'est encore en plein jour, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais pourtant, Pierre va obéir. Malgré l'échec, malgré la fatigue, malgré la frustration, eh bien, Pierre va obéir. Il va obéir. Comment est-ce qu'on réagit quand on est en situation d'échec. Je ne sais pas comment vous réagissez. Hein. Et y a, dites-moi voir un petit peu. Je pense qu'une réaction normale, c'est de dire j'arrête tout. Ce n'est pas la peine. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, 10 fois. J'ai mis ma bonne volonté. J'ai appris ma leçon, etc. J'arrête. Ce n'est pas la peine d'insister. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. J'arrête. On peut se replier sur soi-même. On peut, là aussi, bien, finalement, bien couper un peu le contact avec les autres et puis on se replie sur soi-même. On a peut-être honte, etc. On se culpabilise. Il y en a qui se culpabilisent. Voilà. Ça tourne en boucle dans la tête et on repasse le fil. Et pourquoi j'ai échoué? Est-ce que j'avais fait comme ça? Etc. Et puis, ah, c'est peut-être à cause de ça. Des fois, on revient très loin dans le passé. On se culpabilise. Parfois, on peut être amer. On peut être amer. Personne ne me comprend, personne ne m'aime, c'est la faute des autres. Ah, ça, on retrouve nos mets charnels. On peut se sentir humilié également. Hein. On peut se sentir complètement humilié parce qu'on a échoué, parce que le regard des autres. Et puis surtout, on peut être fatigué, on peut être frustré, on peut être incompris, on est vidé, etc. Et tout cela, c'est une réalité que vous vivez, que je vis. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que même si on vivait tous ces éléments en même temps, et ça ferait pas mal quand même, hein, eh bien on peut quand même dire « Seigneur, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai envie de tout claquer, etc. Mais je veux t'obéir. Mais je veux t'obéir. Ce que tu me demandes, bien, je le fais, Seigneur. Même si je ne comprends pas, même si ça dépasse mon plan, même si c'est… Seigneur, j'obéis. Et ça, on peut le faire. Même fatigué, même humilié, même replié sur nous-mêmes, même culpabilisé, même voulant tout arrêter, on peut obéir à Jésus. Et Jésus sera transformé ce moment en un moment qui lui appartiendra. Amen. Seigneur, je suis en échec, mais sur ta parole, eh bien, je me confie en toi. Voilà, sur ta parole, eh bien, je vais de l'avant. Sur ta parole, Seigneur, je me laisse renouveler. Et puis on termine avec quelques mais de Jésus. Il y en a beaucoup, hein. Mais peut-être trois mais qui nous rapprochent de la communion avec lui. Le premier, c'est Matthieu, alors c'est 19, 25, 26 ou 14, là, c'est 9, pardon, voilà. C'est celui-là. Alors, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être Matthieu 19, 25, 26. On va le retrouver rapidement. Ce passage, de toute façon, que tout le monde connaît, 25. 26. Voilà, c'est ce moment où ce jeune homme riche hein, vient, etc. Et voilà ce que dit Jésus. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Aux hommes, cela est impossible. Vous connaissez la suite ? Mais à Dieu, tout est possible. Ça, c'est un mec qui nous transforme quand même ce matin. On est venu avec nos impossibilités, avec nos échecs, avec nos mers rouges pour l'instant qui sont fermées, avec nos fosses dans lesquelles on a l'impression d'être au fond, sans échelle, sans corps, sans lumière, avec nos ténèbres, avec nos tunnels, etc. Mais il y a ce « mais » ce matin pour nous, une parole de Jésus, c'est impossible aux hommes, mais pour Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Connaissez l'histoire de ce singe hein, dans la savane, j'aime bien son image, hein, et qui tombe dans les marécages. Et là, bien sûr, dans les sables mouvants, et puis bien, il essaye, bien sûr, quelques techniques. L'éléphant avec sa trompe est trop court, la girafe avec son cou non plus ne peut pas l'atteindre, etc. Et là, il y a un autre singe qui a une idée lumineuse. Il lui dit, je connais la solution pour que tu te tires de ce mauvais pas, il suffit de tirer sur ses moustaches. Voilà. Et notre brave singe, plus il tirait sur les moustaches, plus il s'enfonçait. Il fallait après une intervention extérieure. C'est ce matin, dans ma force, dans mon impossibilité, dans mon problème avec mon patron, avec mes ouvriers, mes problèmes de finances, etc., j'ai beau me tirer sur les moustaches, hein, ça ne fera rien du tout. Ce qui est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Amen. Mais tout est possible à Dieu. Ça, c'est un mec qui peut nous transformer ce matin et qui peut nous faire rayonner. Mais tout est possible. C'est finalement pour nous le fondement, hein, le fondement pour nous de cette communion, bien, c'est l'autorité divine. Tout est possible, mais tout est possible à notre Dieu. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu 4:4, hein, vous connaissez également. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la base de notre communion avec lui, par sa parole, par son esprit. Et je ne parle pas simplement du texte que je lis hein, chaque jour, mais de cette parole, de cette méditation, de cette nourriture qui va venir arracher mon âme peut-être de ténèbres, et m'éclairer. En tout cas, la base de notre communion ce matin, c'est sa parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein, qu'elle soit méditée, qu'elle soit entendue, qu'elle soit chantée, laissons la parole de Dieu nous pénétrer encore et toujours. Amen. Elle est la base de notre communion. Et puis je termine, Jean 15, 16, la source de notre cheminement, notre communion avec Dieu, vous le savez, c'est cette belle parole. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. » Je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Nous n'y sommes pour rien dans notre communion avec Jésus. Nous n'y sommes pour rien parce que c'est lui qui nous a choisis. Même si nous avons répondu favorablement à son appel, et je suis convaincu que c'est convaincu par le Saint-Esprit, parce que là encore, de nous-mêmes, notre chair s'y aurait opposée. Mais il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Il y a une pub hein, pour un fast-food qui nous dit « Venez comme vous êtes. » Venez comme vous êtes, voilà. Mais Jésus nous a choisis tels que nous étions et il nous a accueillis. Et ce matin, bien, nous voulons le bénir également pour cette réalité. La communion qu'il a établie avec nous, elle trouve comme fondement son choix à lui. Un choix guidé par son amour, par sa grâce et par sa bonté. Alors on va conclure par le dernier M-A-I-S de la Bible. Il se trouve dans l'Apocalypse, et j'ai trouvé assez curieux, hein, Apocalypse 22, versets 6 à 9. C'est Jean avec cette révélation extraordinaire, hein, Jean malgré qu'il soit là aussi en exil, on dit même peut-être qu'il a travaillé dans des mines de sel, il reçoit cette révélation, et voilà ce qui arrive à Jean. Donc l'ange dit, et il me dit, ces paroles sont certaines, véritables, le Seigneur Dieu des esprits des prophéties a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et puis la suite, c'est moi, Jean, qui ai entendu, vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. On a du mal à comprendre, hein, mais... Moi, je réfléchis, je me dis, Jean est tellement imprégné par la parole de Dieu, il y a une dimension qu'il dépasse, qu'il en arrive un petit peu dans son extase. Il ne sait plus trop où il est, Jean, avec ses visions. Il en arrive à vouloir adorer un ange. On dit, oh, quand même, Jean, on lit ta parole, etc. Mais il faut comprendre. Et l'ange va lui dire, et c'est le dernier mais de la Bible qui doit résonner dans notre cœur, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères et de tes prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et les deux mots-là me plaisent pour conclure. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Mais adore Dieu. Finalement, une des grandes tentations, voire la grande tentation de notre chair, du péché, de Satan, c'est de nous faire détourner notre adoration. Pour qu'elle se porte sur autre chose que Dieu lui-même. J'aime chanter, j'aime louer le Seigneur, etc. Et nos sœurs hier ont eu un moment extraordinaire. Mais parfois, il y en a qui deviennent des adorateurs de l'adoration. C'est-à-dire que... Ils arrivent à créer une ambiance et les chants sont parfaits, les voix sont justes, les harmonies sont impeccables. Hein, ici, de temps en temps, ça coince un peu, mais vous êtes là, etc. Et on tend, bien sûr, à ce que ça s'améliore. Mais on arrive finalement à détourner. C'est plus Dieu qu'on adore, c'est l'adoration, c'est l'ambiance. Et c'est très subtil. Veillons, veillons. Parce que, et je répète ce que j'ai dit en début de culte, ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Alors, adorons Dieu. Hein, ce matin, laissons ces mets de Jésus nous transporter, mais Tout est possible à notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants avant la Sainte Cène, afin que ce matin, eh bien, nous puissions réaliser qu'il y a des mets, eh bien, qui vont transformer nos vies. Hein, là aussi, Seigneur, je suis indigne, mais, je suis peut-être étranger ou étrangère, mais tu accueilles. Je suis indigne, mais tu exauces. Et puis, Seigneur, eh bien, je suis fatigué, je suis en échec. Mais toi, Seigneur, eh bien, tu bénis, tu renouvelles, tu aides et tu encourages. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin, pour ce temps de louange, d'adoration. Nous voulons en effet ne pas détourner notre adoration de qui tu es, de ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Et je te rends grâce, Seigneur, ce matin pour ta parole. Nous sommes, Seigneur, bien faibles, mais tu es le Tout-Puissant. Sommes, Seigneur, indignes, mais tu nous as rendus dignes par ta parole. Nous sommes peut-être en échec ce matin, mais sur ta parole, je veux t'obéir. Je suis peut-être considéré comme étranger, étrangère, mais Seigneur, tu es celui qui accueille. Et puis on pourrait faire une liste longue ce matin. Il y aurait toujours un « mais » de Dieu, M-A-I-S, qui nous tire vers le haut, qui nous fasse grâce et qui nous accorde, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous prions ce matin les uns pour les autres, afin que dans ta bonté, dans ta grâce, tu puisses maintenant, Seigneur, te révéler et te manifester, afin que, Seigneur, ces mets qui viennent de toi deviennent aussi pour nous des réalités spirituelles. Que tout ce qui bloque, que tout ce qui entrave, que tout ce qui est une porte fermée puisse maintenant, Seigneur, être déverrouillé par le nom de Jésus-Christ. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je prie et nous prions ce matin pour qu'il y ait ces belles réalités maintenant dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom de Jésus. Amen.